Quand les choses vont mal, on se pose des questions. C'est humain. Jérémie était certes prophète, mais aussi un homme avec toutes les limitations que cela suppose. Je commence à lire le chapitre 33 de ce prophète. L'Éternel adressa la parole une seconde fois à Jérémie, alors qu'il était encore enfermé dans la cour du corps de garde. Verset 1. Cette seconde révélation donnée à Jérémie alors qu'il est en prison a eu lieu la même année que la première en 587 avant Jésus-Christ alors que Jérusalem est assiégée par les Babyloniens. Je continue en compressant. Voici ce que déclare l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai de grandes choses et des choses secrètes que tu ne connais pas. Versets 2 et 3. Cette vision concerne le peuple de Dieu qui sera rétabli dans son pays après la captivité babylonienne et surtout de la diaspora à la fin des temps. Cette prophétie ne nous apprend rien de nouveau. Cependant, un retour d'exil était un événement tellement inconcevable à l'esprit de cette époque antique qu'il fallait, pour y croire, revenir sans cesse aux promesses solennelles de l'Éternel. Pour confirmer sa parole, Dieu avait ordonné à Jérémie d'acheter un terrain alors que le royaume de Juda était sur sa fin. Le prophète avait obtempéré, mais il n'arrive pas à comprendre que l'Éternel puisse d'une part juger et déporter Israël par une nation païenne qui lui était bien pire, et d'autre part le laisser moisir en prison alors qu'il n'a fait que lui obéir. Jérémie a la tête qui tourne et ne sait plus quoi penser. En réalité, ces doutes font partie du combat de la foi qui doivent le mener à un niveau plus élevé de confiance en Dieu. Facile à dire, me direz-vous. Effectivement, car moi aussi, comme Jérémie, je me pose des questions sur la façon dont Dieu agit dans ma vie et autour de moi. Je ne comprends pas toujours très bien et je demande pourquoi. Quand je suis dans l'obscurité, la seule solution est de placer ma main dans celle du Seigneur de l'univers et de continuer à marcher. Dieu veut que je sois honnête et franc avec lui, que j'exprime mes interrogations, mon désarroi et mes doutes. Et cela prouve que malgré les problèmes que je rencontre, j'ai quand même confiance en lui. Ici, l'Éternel demande à Jérémie de se transporter au-delà de l'exil babylonien et de prier pour les Israélites afin qu'ils en reviennent. Plus tard, à Babylone, le prophète Daniel fera de même et Dieu répondra à sa prière. C'est vrai que le Seigneur a déjà décidé ce qu'il allait faire, mais il désire que ceux qui croient en lui participent à son œuvre au moyen de l'intercession. La façon dont la souveraineté de Dieu et la volonté de l'homme s'articulent l'une avec l'autre fait partie du mystère de la prière. Les voies de Dieu sont inaccessibles à ma raison et à mon intelligence. Dans ce domaine, je ne peux que fonctionner par la foi. Dans la suite du texte, Jérémie annonce à nouveau, d'une part, la prise de Jérusalem et l'inutilité de résister aux Babyloniens, et d'autre part, que le châtiment de Juda précédera sa restauration. Je continue le texte plus loin. La ville de Jérusalem fera ma renommée, ma joie, et sera une source de louange et de gloire parmi tous les peuples de la terre qui apprendront tous les bienfaits dont je la comblerai. Ils trembleront de peur et seront terrifiés en voyant le bonheur et la prospérité que je lui donnerai. Verset 9. Les nations païennes éprouveront une crainte salutaire à la vue des bénédictions extraordinaires qui seront accordées à ce peuple d'Israël qu'elles ont si longtemps méprisé et opprimé. Lorsque les non-juifs mentionneront Jérusalem, ce sera pour Dieu un sujet de joie, parce qu'ils rendront ainsi hommage à son nom. Je continue plus loin. En ce temps-là, à cette époque, je ferai naître un germe juste dans la dynastie de David, et il exercera le droit et la justice dans le pays. En ce temps-là, Juda sera sauvé, Jérusalem vivra dans la sécurité. Voici quel est le nom dont on l'appellera. L'Éternel est notre justice, car voici ce que l'Éternel déclare. David aura toujours l'un de ses descendants sur le trône du peuple d'Israël. Il y aura toujours des prêtres lévites se tenant devant moi pour m'offrir l'holocauste, faire brûler l'offrande et faire les sacrifices tous les jours. Versets 15 à 18. Le jugement qui allait s'abattre sur Juda n'annulera pas les promesses divines faites antérieurement. Jérémie atteste solennellement qu'elles verront leur accomplissement dans l'avenir. On les retrouve d'ailleurs dans le Nouveau Testament. Lors de la visitation, l'ange Gabriel a dit à Marie « Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus, il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il règnera éternellement sur le peuple issu de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Jésus est le Messie et le nouveau David. Nul autre que lui ne peut prétendre au trône d'Israël. Après être retourné dans les cieux, Dieu Père a dit à Dieu Fils, « Viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. » Quand Jésus reviendra pour régner, il réalisera parfaitement les deux charges royales et sacerdotales. Cependant, certains membres du royaume messianique seront établis prêtres, pasteurs, afin de diriger le culte qui sera rendu à l'Éternel. Je finis le chapitre 33. L'Éternel adressa la parole à Jérémie en ces termes. Voici ce que dit l'Éternel. Si vous réussissez à rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, de sorte que le jour et la nuit ne paraissent plus en leur temps, alors sera aussi rompue l'alliance que j'ai faite avec mon serviteur David, de sorte qu'il n'ait plus de fils qui règne sur son trône, ainsi que mon alliance avec les prêtres lévites qui sont à mon service. Versets 19 à 21. Rien ne peut changer les décrets de Dieu. Sédécias, le mauvais roi de Juda, partira en exil et la nation cessera d'exister. Mais ces événements tragiques ne mettront pas un terme à la dynastie de David, car dans les cieux, quelqu'un attend son heure pour monter sur le trône de David et régner sur la terre entière. L'honneur de Dieu exige que la royauté de David et le sacerdoce lévitique continuent au-delà de l'exil. Aujourd'hui, ils ne sont toujours pas en fonction, mais un jour, ils le seront. Je commence à lire le chapitre 34 en compressant. « Va dire à Sédécias, roi de Juda, voici ce que dit l'Éternel, je vais livrer cette ville au roi de Babylone qui y mettra le feu. Quant à toi, tu ne lui échapperas pas. Non, tu seras bel et bien capturé. Oui, tu iras à Babylone. Pourtant, écoute ce que dit l'Éternel, ô Sédécias, roi de Juda, tu ne mourras pas par l'épée, mais tu mourras paisiblement. » Comme on a brûlé des parfums pour des ancêtres qui étaient avant toi sur le trône royal, ainsi l'on en fera brûler en ton honneur, et l'on entonnera pour toi une élégie funèbre. Hélas, notre Seigneur !» Versets 1 à 5. Ce passage traite du sort personnel du roi Sédécias. Il mourra de mort naturelle, recevra une sépulture honorable, et on chantera une complainte sur lui. Cependant, on lui crèvera aussi les yeux et il sera emmené à Babylone où il restera jusqu'à sa mort. Je continue plus loin en compressant. Le roi Sédécias avait conclu une alliance avec toute la population de Jérusalem pour que l'on publie la libération de tous les esclaves hébreux, hommes ou femmes. Tous les dirigeants et toute la population avaient conclu cette alliance. Ils avaient tenu parole et avaient libéré leurs esclaves. Mais par la suite, ils revinrent sur leur décision et reprirent leurs anciens esclaves, hommes et femmes, qu'ils avaient affranchis pour les soumettre de nouveau à la servitude. C'est pourquoi voici ce que déclare l'Éternel. « Puisque vous ne m'avez pas obéi en libérant chacun son compatriote et son prochain, eh bien moi, je vais vous libérer pour l'épée, la peste et la famine, et vous inspirerez l'effroi à tous les royaumes de la terre. » Verset 8 à 11. Croyant que les Babyloniens étaient sur le point d'entrer dans la ville, les habitants pétrifiés ont pris devant l'Éternel et dans son temple l'engagement d'affranchir leurs esclaves juifs. En effet, selon la loi, les Hébreux qui devaient vendre leurs services à leurs frères pour rembourser des dettes devaient être remis en liberté au plus tard à la 7e année de leur esclavage. Mais sur ces entrefaites, l'armée égyptienne arrive au secours de Juda, ce qui force les Babyloniens, pour un temps, à lever le siège. Alors, les habitants de Jérusalem, les chefs en tête, reviennent sur leur engagement. Comme faucheton, on ne fait pas mieux. Leur intention n'avait pas été d'obéir à la loi, mais de se rendre favorable à Dieu afin qu'il les délivre de la détresse. Je finis le chapitre 34 en compressant. Vous n'avez pas tenu les engagements que vous aviez pris lorsque vous avez conclu cette alliance devant moi en coupant un veau en deux et en passant entre les deux moitiés. Je vous livrerai à vos ennemis et à ceux qui en veulent à votre vie, à l'armée du roi de Babylone qui vient de lever le siège. Versets 18 à 21. Depuis l'Antiquité, on accompagnait la conclusion d'un contrat en partageant un animal en deux moitiés et les contractants passaient entre les morceaux. Cet acte symbolique équivalait à une imprécation prononcée contre soi-même si on violait sa bonne foi. Je commence maintenant à lire le chapitre 35 en compressant. Voici le message que l'Éternel adressa à Jérémie au temps de Jéhoiakim, fils de Josias, roi de Juda. Va trouver la famille des Récabites, parle-leur, et fais-les venir dans l'une des salles du temple. Là, tu leur donneras du vin à boire. Mais ils me dirent, nous ne boirons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre ancêtre, nous a donné ses ordres, vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos descendants, à perpétuité. Versets 1 à 2 et 6. Retour en arrière. Cette histoire a eu lieu sous le règne de Jéhoiakim, qui a précédé celui de Sédécias, le dernier roi de Juda. Nous sommes en 588 avant Jésus-Christ et Jérusalem est assiégée une première fois par les Babyloniens. Les Récabites formaient une branche des Kéniens, une tribu madianite dont certains membres s'étaient joints aux Hébreux lors de la conquête de Canaan. Le beau-père de Moïse était Kénien. Ces gens avaient adopté la religion d'Israël. Pour lutter contre la vie sédentaire décadente, un de leurs descendants, Jonadab, fils de Récab, organisa une sorte de congrégation religieuse dont les membres devaient s'abstenir de vin et continuer leur mode de vie nomade. Les Récabites étaient restés fidèles depuis près de 3 siècles à ces prescriptions de leurs ancêtres. L'exemple que Jérémie met en avant n'est pas l'abstinence des Récabites, mais leur pieux respect des volontés de leur père fondateur. Je continue plus loin en compressant. Alors l'Éternel adressa la parole à Jérémie en ces termes. « Va dire aux gens de Juda et aux habitants de Jérusalem, « Ne comprendrez-vous pas la leçon pour écouter mes paroles ?» dit l'Éternel. Les descendants de Jonadab, fils de Récab, ont respecté les ordres que leur ancêtre leur a donnés. Et moi, je n'ai cessé de vous parler, mais vous ne m'avez pas obéi. Versets 12 à 14. Ce discours est adressé au peuple qui se trouvait dans le parvis du temple. Le contraste entre l'obéissance des Récabites et la rébellion des Israélites est accablante. Voilà des gens qui, pendant 3 siècles, ont scrupuleusement observé des règles plus ou moins arbitraires que leur a données leur ancêtre. Alors que les Israélites n'ont jamais cessé de transgresser les commandements de l'Éternel, leur Dieu. Je continue plus loin et finis ce chapitre. Puis Jérémie dit aux Récabites, « Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Parce que vous avez obéi aux ordres de votre ancêtre, à cause de cela, Jonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent tous les jours en ma présence. » Versets 18 et 19. Les Récabites ont été inclus aux Lévites, la tribu qui assumait des fonctions liées au temple et au culte de l'Éternel. Je commence à lire le chapitre 36. La 4e année du règne de Jéhoiakim, fils de Josias, roi de Juda, l'Éternel adressa ce message à Jérémie. « Prends un rouleau de parchemin. Tu y inscriras toutes les paroles que je t'ai dites au sujet d'Israël, de Juda et de toutes les nations depuis le jour où j'ai commencé à te parler sous le règne de Josias et jusqu'à ce jour. Lorsque les gens de Juda entendront tous les maux que j'ai décidé de leur infliger, peut-être chacun d'eux abandonnera-t-il sa conduite mauvaise et alors je pardonnerai leurs fautes et leurs péchés. » Versets 1 à 3. Nous sommes en 605 avant Jésus-Christ, l'année où Nabuchodonosor vainquit les Égyptiens à Carchemish, vint à Jérusalem, pilla le trésor du temple et imposa au roi Jéhoiakim de lui payer un tribut. C'est après plus de 20 ans de ministère que Dieu ordonne à Jérémie d'écrire toutes les prophéties qu'il a prononcées jusque-là. À part la lettre qu'il a envoyée aux premiers exilés, Jérémie proclamait la parole de l'Éternel au fur et à mesure qu'elle lui était révélée sans la consigner par écrit. À cette époque, on écrivait sur de longues bandes de parchemin qui étaient enroulées sur un cylindre. La lecture publique de ces menaces solennelles, présentées sous forme condensée, était la dernière tentative de réveiller les Israélites de leur torpeur spirituelle afin que le châtiment de Dieu puisse être repoussé une nouvelle fois. Je continue le texte. Alors Jérémie fit appel à Baruch, fils de Néria, et Baruch écrivit, sous la dictée de Jérémie, sur un rouleau de parchemin, tout ce que l'Éternel lui avait dit. Puis Jérémie donna les instructions suivantes à Baruch. « Je suis retenu et je me trouve dans l'impossibilité de me rendre au temple. » Baruch fit tout ce que le prophète Jérémie lui avait ordonné. Il lut au temple de l'Éternel les paroles de l'Éternel consignées dans le livre, versets 4 et 5 et 8. À cette époque, le prophète était libre de ses mouvements, alors on ne sait pas trop ce qui l'empêche de se rendre au temple. Il se peut qu'il ait contracté une souillure d'ordre rituel en touchant un mort, par exemple. Je continue le texte plus loin. Cela se passait la cinquième année du règne de Jéhoiakim, fils de Josias, roi de Juda, au neuvième mois. On avait publié un jeûne devant l'Éternel pour tout le peuple de Jérusalem et pour tous les gens des villes de Juda qui venaient à Jérusalem. Verset 9. Nous sommes en novembre-décembre 604. Les prêtres avaient proclamé ce jeûne exceptionnel suite à l'invasion babylonienne. Je continue. Baruch lut dans le rouleau les paroles de Jérémie dans le temple de l'Éternel, dans la salle de Guémaria, fils de Shaphan, le secrétaire, dans le parvis supérieur, à l'entrée de la porte neuve du temple. Tout le peuple pouvait l'entendre. Michée, le fils de Guémaria, fils de Shaphan, entendit toutes les paroles de l'Éternel contenues dans le livre. Verset 10. Guémaria a mis ses locaux à la disposition du prophète. Avec son frère Ahikam, il faisait partie d'une famille influente qui protégeait Jérémie. Michée, le fils de Guémaria, prend une initiative louable. Il se rend alors au palais royal où sont rassemblés les hauts dignitaires civils et militaires du royaume et leur rapporte les paroles qu'il a entendues. Ces derniers font appeler Baruch, le secrétaire de Jérémie, pour qu'il leur lise ses prophéties. Je continue le texte plus loin en compressant. Lorsqu'ils entendirent toutes ces paroles, ils se regardèrent l'un l'autre avec effroi et ils dirent à Baruch, « Il faut absolument que nous rapportions toutes ces paroles au roi. » Alors les dirigeants dirent à Baruch, « Va trouver Jérémie et cachez-vous tous les deux. » « Que personne ne sache où vous êtes !» Versets 16 et 19. Ces personnages connaissaient suffisamment bien le caractère vindicatif du roi pour savoir qu'une fois informés du contenu du livre, ils s'attaqueraient à Jérémie et à son secrétaire, Baruch. Je continue plus loin. Chaque fois que Yehudi avait lu trois ou quatre colonnes du rouleau, le roi les coupait avec le canif du secrétaire et les jetait au feu dans le brasero, jusqu'à ce que tout le rouleau soit passé au feu dans le brasero. Mais ni le roi, ni aucun de ses ministres qui entendaient toutes ces paroles ne furent alarmés, et aucun d'eux ne déchira ses vêtements en signe de consternation. Versets 23 et 24. Cette attitude méprisante du roi Jéhoiakim est aux antipodes de celle adoptée par son père, le roi Josias, 17 ans plus tôt lors de la découverte du livre de la loi dans le temple. Le roi Josias avait alors déchiré ses vêtements en signe de consternation, alors que son fils déchire le rouleau de la loi, ou plutôt des prophéties de Jérémie malgré les protestations des hauts dignitaires. Jéhoiakim et ses aides de camp sont tout aussi endurcis les uns que les autres, des vrais charognes. Après avoir brûlé le manuscrit, le roi ordonne l'arrestation de Jérémie et de son secrétaire Baruch. Mais le texte dit « L'Éternel les tint cachés ». Je continue plus loin et finis ce chapitre. Après que le roi eut brûlé le rouleau, l'Éternel adressa la parole à Jérémie en ces termes. « Prends un autre rouleau sur lequel tu écriras toutes les paroles qui figuraient sur le premier rouleau que Jéhoiakim, roi de Juda, a brûlé. Aucun de ses descendants ne lui succédera sur le trône de David. Son cadavre sera jeté dehors et exposé à la chaleur du jour et au froid de la nuit. Je le punirai, lui, ses descendants et tous ses ministres pour leurs crimes, et je ferai venir sur eux, sur les habitants de Jérusalem et sur les gens de Juda, tous les malheurs que je leur ai annoncés et dont ils ont refusé d'entendre parler. » Versets 27 à 31. Jéhoiakim a signé son arrêt de mort. Tout comme il a détruit le rouleau de prophétie, son cadavre sera exposé à la chaleur du jour et au froid de la nuit. À cette époque, une telle fin était le pire déshonneur qui pouvait arriver à un roi, sans parler du jugement dans l'au-delà. L'Ancien Testament nous donne peu d'informations sur le châtiment éternel. Par contre, Jésus en a abondamment parlé, mais c'est une réalité sur laquelle personne n'aime trop s'attarder.